RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Il y a près de 6 ans se terminait l'une des plus longues et sanglantes guerres civiles asiatiques. En mai 2009, l'armée sri-lankaise battait la rébellion des Tigres Tamouls. 26 ans de conflit prenaient fin lors d'un dernier assaut sanglant qui aurait coûté la vie à plus de 40 000 civils tamouls pris entre les feux. Le gouvernement de l'ex-président Mahinda Rajapaksa a toujours nié ces crimes de guerre et refusé toute enquête internationale. Et ces dernières années, l'armée et la police ont continué à pourchasser les présumés rebelles, enlevant et torturant des milliers de civils. En janvier dernier, une nouvelle page s'est tournée sur l'île avec l'élection du nouveau président Maithripala Sirisena. Celui-ci a promis de faire la lumière sur cette période et d'engager un processus de réconciliation entre Singhalais et Tamouls. Une lumière d'espoir pour cette minorité tamoule qui attend maintenant de voir ses promesses se concrétiser. Notre envoyé spécial, Sébastien Farsi, s'est rendu dans cette région tamoule, au nord du Sri Lanka, pendant longtemps interdite aux journalistes. Voici son reportage.
C'est la première fois que je me rends à Jaffna. Avant, ce train s'arrêtait à Anuradhapura. Pendant les 30 ans de conflit, il ne pouvait pas aller plus loin car tout était instable. Maintenant, la guerre est finie, le pays a été libéré, il n'y a plus de terrorisme. Les gens vivent dans la paix et l'harmonie. Les Sri Lankais du Sud et du Nord sont devenus amis.
Fazul Jahabdin a le visage rayonnant d'un enfant parti pour un grand voyage. Ce Singhalais musulman de 61 ans, récemment retraité, est impatient de découvrir la capitale du nord du Sri Lanka, Jaffna, la Tamoul, ancien bastion de la rébellion des Tigres. Depuis octobre, cette ligne de train entre le sud et le nord, entre le pays singhalais et le pays tamoul, a été rouverte et avec elle, la possibilité pour les deux communautés de renouer des contacts. Fazul, lui, avance sans crainte.
J'ai travaillé à Colombo, dans un journal tamoul. J'ai donc fréquenté beaucoup de tamouls. Ce sont des gens bien, très hospitaliers et sincères. Je les aime beaucoup.
Près de 6 ans après la fin de la guerre, l'espoir naît enfin chez les Tamouls. Depuis la défaite de la guérilla de l'Ilam Tamoul en mai 2009, l'armée régulière a occupé des hectares de terre dans le nord et le nord-est pour chasser les anciens rebelles, arrêter, torturer et faire disparaître des milliers de civils grâce à des lois antiterroristes draconiennes et des services de renseignement omniprésents. L'ex-président Mahinda Rajapaksa a créé un climat de terreur dans lequel chaque Tamoul hindou était suspecté d'être un agent antipatriotique dans une nation à majorité singhalaise et bouddhiste. Le nouveau président Maithripala Sirisena, lui, a promis de mettre fin à cela. Dans son discours du jour de l'indépendance, le 4 février dernier, ce chef de l'État n'a pas célébré la grande victoire de l'armée contre les Tigres Tamouls et la défaite du terrorisme comme son prédécesseur, mais il a parlé réconciliation. Nous avons lancé de grands projets de développement économique depuis 2009, a-t-il lancé, mais nous avons échoué à unifier notre peuple. Pour la première fois depuis 43 ans, l'Alliance nationale tamoule, le principal parti de cette minorité, a assisté à cette cérémonie. Elle est habillée d'une belle robe rouge qui contraste avec sa peau brun foncé. Sylvia a le sourire désabusé. Cela fait plus de 20 ans qu'elle et toute sa famille, des dizaines de personnes, ont été chassées de leur grande exploitation agricole des alentours de Jaffna. Depuis lors, elle survit dans cette banlieue de la ville avec 200 autres familles. Des ruelles étroites serpentent entre des maisons de briques et de tôles. Sylvia nous emmène chez elle.
Ici, ce sont les toilettes communes pour les 200 familles du camp. Et là, notre maison.
Ah, il fait chaud, ouais. C'est sûr qu'avec de la tôle pour seul toit, il fait chaud l'été. 3 petites pièces pour 7. Il faut dormir où il y a de la place.
Il y a 15 jours, nous avons fait notre demande au chef du gouvernement de la province du Nord pour récupérer notre terrain. Il se trouve à 12 kilomètres d'ici. Nous pensons que le nouveau président nous autorisera à y retourner.
La maison, elle a été détruite.
Oui, toutes les maisons ont été rasées par un bulldozer.
Le nouveau président a annoncé que l'armée allait se retirer d'environ 4 km carrés de terre dans le nord, nord-est et à Colombo. Un premier pas timide, car rien que dans la région de Jaffna, près de 60 km carrés de terre sont occupés par l'armée pour maintenir ce qu'elle appelle des zones de haute sécurité. Celles-ci, souvent bien placées le long des côtes, sont parfois utilisées pour des raisons bien plus économiques que militaires. Avec Paramesh, un journaliste local, nous décidons de nous rendre dans la plus grande de ces zones de sécurité, à Kankesanturai, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Jaffna. Le long de la route qui nous y mène, les marques de la guerre sont encore visibles.
Ah, la zone est complètement vide, on a l'impression d'un no man's land, déserté sur plusieurs kilomètres, les maisons sont vides. Et là, il y a un checkpoint des militaires pour entrer dans la zone de haute sécurité.
Ils nous observent. Gardez votre enregistreur dans le sac.
Ok.
Ceci, c'est la grande cimenterie. Vous pouvez voir les grosses machines.
C'est sous le contrôle militaire, donc on ne peut plus l'utiliser, quoi.
This is my area. My house is 2 kilometers away from here.
Je vivais ici avant. Ma maison est à 2 kilomètres d'ici. J'allais voir les films tamouls à vélo. Il y avait 2 salles de cinéma là-bas. Mais ma maison a été détruite par l'armée. Et là, vous avez la mer et le port là-bas. On peut apercevoir l'Inde de l'autre côté. Avant, les rebelles faisaient passer des armes par ici. Mais maintenant, vous avez cet hôtel. Il s'appelle Talsewana. Tal veut dire palmier.
Talsewana Holiday Resort. Très belle plage. Avec des transats et des parasols sur du sable blanc, nous arrivons dans le resort de l'armée.
À l'entrée du beau bâtiment de couleur crème s'écoule l'eau d'une fontaine. Une femme sort avec ses bagages un sourire satisfait sur son visage. Elle est Sri Lankaise d'origine, mais elle vit maintenant en Australie.
So it's a great hotel, no? Yeah.
C'est un bel endroit. C'est vrai qu'il est tenu par l'armée. Vous savez, pendant la guerre, on avait tellement de militaires. Maintenant, il y en a un peu moins. Mais ils s'occupent en tenant cet hôtel. C'est différent, mais c'est propre, avec de la bonne nourriture.
Et pourquoi vous avez choisi cet hôtel ?
Nous n'étions jamais venus dans cette zone. Et sa réputation sur Internet est bonne.
Sur le chemin du retour, entre deux ruines de maison, un signe de vie apparaît. Un homme aux cheveux grisonnants s'affaire sur un vélo renversé. Asha Sanmugan est revenu sur ses terres en 2010 quand l'armée a libéré cette zone. Il a alors ouvert cet atelier de réparation de bicyclettes en bord de route et reconstruit brique par brique, avec les quelques revenus qu'il avait, une nouvelle maison à côté de celle effondrée. Au bout de 25 ans passés dans des camps de réfugiés, il a enfin pu recommencer sa vie.
Nous vivions avec toute la famille dans deux petites huttes de 3 mètres sur 2. Nous n'avions aucun revenu. On nous donnait à manger. Mais pour aller travailler, nous devions nous enregistrer d'abord auprès des autorités du camp. Au bout de 6 ou 7 ans, nous pensions que nous ne reviendrions jamais.
Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes revenu sur vos terres ?
Je suis extrêmement heureux. Aujourd'hui, même si on n'avait pas à manger, ce ne serait pas grave. On est sur notre terre. Maintenant, on sait que la guerre est finie. On peut penser à l'avenir.
Des mesures concrètes viennent renforcer cette perception. Le nouveau gouvernement a remplacé les gouverneurs des régions du Nord et du Nord-Est. Ces postes, occupés par des militaires depuis la fin de la guerre, ont été attribués à des civils. Le grand parti tamoul du TNA a accepté également de soutenir cette administration et ses élus sont en train de négocier avec les autorités pour récupérer tous ces terrains occupés. Mavai Senatiraja, député du Parlement national pour ce parti, a déployé dans son bureau de Jaffna une grande carte de la région.
Selon nos estimations, environ 100 000 personnes ont perdu leurs terres et vivent encore dans des camps, 11 camps différents répartis dans la péninsule de Jaffna. À cela, il faut rajouter 200 000 réfugiés dans le sud de l'Inde, des réfugiés qui sont prêts à revenir si le gouvernement leur rend leurs terres. Nous sommes confiants, mais le gouvernement a demandé du temps, car il ne veut pas donner l'impression qu'il retire toute présence militaire. Sinon, les extrémistes vont l'accuser de mettre en péril la sécurité du pays.
Et combien de militaires sont encore présents ?
Près de 150 000 militaires se trouvent dans la région du Nord. Et le problème, c'est qu'ils cultivent nos terres fertiles et qu'ils vendent cette production sur nos marchés. Ils ont aussi chassé nos pêcheurs, ramené et protégé des Cingalais pour pêcher dans les zones tamoules.
Mais le plus difficile pour ce gouvernement sera de faire la lumière sur les milliers de disparitions forcées qui ont accablé les familles sri-lankaises pendant toutes ces années, qu'elles soient tamoules, cingalaises, chrétiennes ou musulmanes. Depuis 1980, plus de 80 000 civils ont été enlevés ou assassinés par les belligérants. Même après la fin du conflit, les différents services de sécurité ravissaient en pleine rue leurs cibles, principalement des tamouls. Ils étaient suspectés d'avoir aidé les tigres tamouls combattus dans leurs rangs. On a rarement retrouvé leurs traces. Aujourd'hui, plus que jamais, les familles des victimes ont besoin de savoir ce qui leur est arrivé pour pouvoir enfin tourner la page et faire le deuil.
Dossier numéro 6716. Vous nous dites que votre frère a disparu le 6 octobre 1990. Des hommes en civil non identifiés sont entrés chez vous avec des armes entre 6 et 7 heures du soir. Ils vous ont dit qu'ils devaient lui poser quelques questions et l'ont emmené.
Une commission sur les personnes manquantes a été mise en place par le gouvernement précédent et a déjà reçu 20 000 requêtes en 18 mois d'exercice. Dans la salle d'un bâtiment public des alentours de Trincomalee, au nord-est du Sri Lanka, les auditions ont repris début mars. Pendant 3 jours, plus de 200 personnes défilent munies de papiers d'identité jaunis, les dernières preuves d'existence d'un proche disparu il y a parfois plus de 30 ans. Cependant, pour la première fois, un collectif de militants tamouls et de familles de disparus a boycotté la session. Cette femme au visage ridé tient la photo d'un jeune homme, son fils, qu'elle pleure depuis des années. Comme tous ceux qui manifestent devant ce bâtiment, elle porte un bâillon sur la bouche pour signifier que sa plainte n'a jamais été sérieusement entendue. Cette commission rattachée au bureau du président n'a en effet pas la possibilité de poursuivre des suspects, comme le déplore Eli Rajendran du Forum de la société civile tamoule.
Le directeur de la commission a dit qu'il avait transféré certains dossiers auprès du procureur général. Mais nous n'y croyons pas, car l'État ne va jamais poursuivre ses propres soldats impliqués dans le meurtre de centaines de milliers de tamouls. Nous avons eu plusieurs commissions de la sorte, et cela n'a rien donné. Nous demandons donc que cela soit réalisé par la communauté internationale.
En mars 2011, un panel d'experts des Nations Unies a conclu qu'il y avait des éléments crédibles qui indiquaient que des crimes de guerre avaient été commis à la fin du conflit, entraînant la mort d'au moins 40 000 civils, principalement des Tamouls. L'ex-président Mahinda Rajapakse a totalement rejeté ces conclusions, mais la pression n'a cessé de monter depuis. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement a déclaré qu'il était prêt à enquêter sur ces crimes éventuels avec les conseils de l'ONU, mais sans son assistance. Et il a promis de mettre en place un panel d'enquête dans les semaines à venir. Cependant, pour Ruki Fernando, un militant cingalais catholique à la tête de l'association Inform, le Sri Lanka ne peut pas se permettre de refuser cette aide internationale.
Ma position, c'est que la réconciliation à long terme viendra d'un travail national et pas de l'extérieur. Mais à cause de la nature très répressive et autoritaire du régime dans lequel nous vivons, une assistance internationale était essentielle. Et elle l'est toujours. De plus, le jugement de responsables de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité est de la responsabilité de la communauté internationale et pas seulement du gouvernement national. Cela vaut pour n'importe quel pays et ne doit pas être pris pour une immixtion dans ces affaires.
Mais est-ce que le nouveau gouvernement a les capacités de mener à bien ce processus?
Il n'y a jamais eu de volonté politique d'enquêter sérieusement et de manière indépendante sur les accusations de violation des droits de l'homme. Et il n'y a pas de signe qui indique que cela sera le cas, même sous ce gouvernement. Ce dernier a l'intention de restaurer l'indépendance de la justice, ce qui est positif. Cependant, au Sri Lanka, nous n'avons pas de loi qui traite des problèmes de crimes de guerre contre l'humanité ou de génocide. Nous n'avons pas non plus assez de juges ou d'avocats compétents dans ce domaine. Et nous n'allons pas développer cette compétence en quelques mois. Donc, nous avons besoin de l'assistance internationale pour cela.
Les armes se sont tues aujourd'hui au Sri Lanka et personne ne semble vouloir les reprendre. Cependant, la complainte des 2 millions de Tamouls peut toujours s'entendre dans les cafés de Jaffna ou de Trincomalee, dans lesquels les langues se délient à mesure que les militaires rentrent dans leurs casernes. Ces voix nous parlent de la discrimination dont fait toujours l'objet ce peuple minoritaire sur son île. Un accès difficile aux emplois dans l'administration, des obstacles linguistiques et enfin la défiance permanente des Cingalais envers les Tamouls. Ces revendications égalitaires devront être sérieusement prises en compte si l'on ne veut pas voir réapparaître dans quelques années une nouvelle rébellion tamoule. La difficile voie de la réconciliation, un grand reportage au Sri Lanka de Sébastien Farsi, réalisation Marc Minatel.
Sébastien Farsi, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors comme on l'entend dans votre grand reportage, le président a fait naître un grand vent d'espoir pour les Tamouls. Qu'est-ce qui a changé concrètement sur le terrain 2 mois après son élection?
C'est d'abord le climat qui a radicalement changé, car du temps du président Rajapaksa, les régions tamoules du nord et du nord-est étaient sous contrôle militaire. Les gouverneurs étaient des militaires, l'accès à cette zone nécessitait l'accord du ministère de la Défense, un accord qui était d'ailleurs systématiquement refusé aux journalistes et humanitaires, et les enlèvements et exactions par les services de sécurité étaient fréquents. Aujourd'hui, cette tension s'est relâchée, les civils ont repris le pouvoir politique, l'accès est libre et les militaires sont rentrés dans les casernes. Quand je réalisais mes entretiens à Jaffna, les Tamouls me confiaient souvent leur soulagement de ne plus être espionnés par les services de renseignement. Ces derniers jours, le gouvernement a également libéré une dizaine de militants qui étaient détenus, parfois depuis plus d'un an, sans jamais avoir été inculpés. Enfin, une dernière avancée est l'adoption d'une loi sur la protection des témoins qui dénoncent souvent la police ou l'armée d'exactions et sont souvent donc la cible de terribles répressions.
Si j'ai bien compris, le défi est énorme pour le président.
Oui, en effet, Laurent, et les habitudes mettent du temps à changer. Certains militants des droits de l'homme continuent à recevoir des visites des services de renseignement, montrant bien que cette surveillance de ces dissidents demeure. Surtout, le président Sirisena a reçu le soutien de la minorité tamoule du Nord, ainsi que des extrémistes bouddhistes du Sud, et on ne sait pas jusqu'où il pourra aller dans les enquêtes sur les crimes de guerre sans provoquer la colère de ces nationalistes cingalais et risquer ainsi la chute de son propre gouvernement. Du reste, ce président, il faut le savoir, était ministre de la Santé dans le gouvernement de Mahinda Rajapaksa jusqu'en novembre dernier, et il a donc techniquement été solidaire de ses actes pendant toute cette période. Il ne faut donc pas s'attendre à une politique radicalement différente non plus.
Et cette dernière question, l'ONU a exercé une pression croissante sur Colombo pour juger les responsables des crimes de la fin de la guerre. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ?
Le Sri Lanka, d'abord, n'est pas adhérent à la Cour pénale internationale et ses militaires ou dirigeants ne peuvent donc pas être jugés par ce tribunal étranger. Ensuite, les Nations Unies ne peuvent pas imposer de tribunal ad hoc comme celui du Rwanda ou du Cambodge. Ceux-ci naissent suite à de longues négociations et l'acceptation par le pays souverain que son système judiciaire n'a pas les moyens logistiques ou la neutralité suffisante pour mener une telle mission. Colombo est loin d'arriver à ce constat. Et il devrait mettre sur pied un nouveau panel d'enquête dans les semaines à venir qui sera 100% Sri Lankais. On ne sait pas encore si celui-ci sera très différent des nombreuses commissions qui ont été créées jusqu'à présent et qui se sont révélées peu utiles.
Mais le processus de réconciliation, ce processus de justice, au moins, semble enclenché.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur RFI.fr. Sébastien Farcy, merci beaucoup. Bonne journée.
Tous les jours, Accent d'Europe vous